Vous écoutez l'émission Répétée telle quelle, il est 20h sur Radio Campus Paris.
Répétée telle quelle, votre émission sur les sciences de l'information et de la communication. Actualité, débat et décryptage. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SIC sans jamais avoir osé le demander. Retrouvez-nous un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Répétée telle quelle. Pendant que les beaux jours reviennent, que le temps se réchauffe et que les journées s'allongent, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles thématiques pour vous en apprendre un peu plus sur les sciences de l'information et de la communication. Qu'est-ce qu'on vous a préparé ce soir ? Une émission sur l'influence de nos pratiques culturelles sur nos comportements, nos habitudes et plus particulièrement sur notre consommation à l'ère des technologies numériques. Pas grand-chose à voir avec l'arrivée du printemps, effectivement, mais comment ne pas vous parler des applications et des plateformes qui font partie de notre quotidien ? On utilise Netflix, Google Maps et Uber presque tous les jours, mais on ne réalise pas toujours l'influence qu'ils peuvent avoir sur notre façon d'appréhender le réel. Quels nouveaux usages sont nés avec l'évolution des pratiques culturelles à travers les siècles ? De quelle manière les technologies numériques ont-elles une influence sur notre façon de percevoir le monde ? Quelles conséquences profondes et parfois irréversibles peuvent-elles avoir sur nos comportements ? Restez avec nous pour le découvrir. Au programme ce soir, encore des archives qui vont nous replonger au cœur des sciences de l'information et de la communication. Vous pourrez entendre une conférence sur l'hyperconsommation tenue par Philippe Moati, professeur d'économie à Paris Diderot. Vous pourrez écouter des passages d'une émission de France Culture où celui-ci revient également sur l'hégémonie des plateformes numériques sur notre consommation. Enfin, vous pourrez écouter un entretien avec Dominique Cardon sur la culture et le numérique à l'occasion de la Grande Table des Idées en 2019. L'émission sera également ponctuée de lectures, d'une revue de presse et d'une chronique suivie d'un débat sur l'influence des pratiques culturelles sur nos comportements. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. On vous retrouve tout de suite.
La question de la culture numérique est essentielle. C'est que le web et Internet, c'est un média qui est différent de la radio et de la télévision. C'est un média dans lequel l'utilisateur doit être actif. Et ça pose des problèmes parce que tout le monde n'a pas la même capacité à être actif que tout le monde. Mais c'est un système de réciprocité. Je lis et j'écris, je pose une question et je réponds à une question. Et cette idée qu'il faut participer à la fabrication des usages et des outils est très importante dans la culture numérique. Et évidemment, on voit bien qu'un des enjeux, 30 ans après la naissance du web, c'est qu'il y a des asymétries incroyables qui se sont faites, que de plus en plus, nous sommes des utilisateurs un peu silencieux, pas si actifs que ça, et que les plateformes nous guident, nous orientent et conduisent nos pratiques. Et donc, il y a une asymétrie qui s'est faite dans l'idée de la réciprocité initiale qui est propre à la culture numérique.
Répétée telle quelle. Radio Campus Paris.
Bonsoir Ilona. Notre émission porte sur l'influence des pratiques culturelles sur nos usages quotidiens. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça ?
Je trouve que l'impact du numérique sur nos comportements devient de plus en plus évident. Aujourd'hui, on n'a plus forcément la même façon de traiter l'information, puisqu'on a accès à un nombre illimité de connaissances grâce à nos smartphones. Nous n'avons plus la même façon de consommer, puisque nous avons absolument tout à portée de main. Vous avez faim ? Passez commande chez Uber Eats. Tout simplement. Toi aussi, t'as faim.
J'ai très faim.
Mais avez-vous pensé à un autre changement radical ? Nous avons profondément modifié notre rapport à l'espace. Google Maps en est le premier exemple. Nous sommes aujourd'hui nombreux à dépendre de cette carte intelligente qui nous permet de trouver notre chemin. Et vous pouvez me croire, moi la première. Je marche dans la rue les yeux rivés sur mon téléphone parce que je suis presque incapable de me repérer dans la ville avec mon sens terrible de l'orientation. Mais je ne crois pas être la seule. Cette différence de rapport à l'espace peut s'expliquer en une métaphore. La carte et le territoire. Pour vous éclairer un peu, la carte correspond à un simulacre. Ce terme vient de Jean Baudrillard dans son livre « Simulacre et simulation » paru en 1981. Le simulacre, c'est en fait la représentation du réel. Et le territoire, lui, correspond à l'espace réel. Un peu compliqué dit comme ça. Vous allez voir, ça va devenir très clair.
Explique-nous.
Aujourd'hui, notre carte, c'est Google Maps. Elle nous guide en nous proposant des trajets optimisés, des trajets qui vont être choisis et prédéterminés. Et je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir hégémonique de Google n'est plus forcément à prouver. Google Maps, au-delà d'être un formidable outil technologique qui nous aide à nous repérer, est aussi un système de notation. Si vous regardez autour de vous, vous apercevrez que ces notes apparaissent de plus en plus dans l'espace public. Les restaurants, les coiffeurs, les médecins, mais pas que. Vous faites partie vous-même de ce système. Et c'est justement là que réside tout mon point. Nous ne sommes pas non plus dans un épisode de Black Mirror qui nous pointe du doigt un espèce de futur dystopique, mais je pense que c'est important de se poser cette question. À quel point les systèmes de notation ont-ils une influence sur nos goûts et sur nos comportements ?
Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, non ?
Bah, pas forcément, mais cela amène à une culture de la convergence. C'est-à-dire que tous les regards vont converger à un seul et même endroit. On dit souvent que le web regorge d'informations et qu'il est une véritable source de savoir pour quiconque le souhaite. Mais on ne pense pas forcément à un biais qui existe chez l'ensemble des êtres humains. Celui qui va nous pousser à aller chercher une information qui nous est familière et qui ne sort pas véritablement de nos habitudes et de notre manière de percevoir le réel. Et en fait, nous ne sommes pas véritablement à la recherche d'informations qui vont heurter notre monde intérieur, mais qui le confirment et qui nous confrontent dans nos idées. Et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Voici sa définition. Le biais de confirmation est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes. Sur les réseaux sociaux, des sortes de microsphères ont tendance à se créer. Les utilisateurs voient passer du contenu qui sont en accord avec leurs propres idées et leurs goûts. Et si par quelque hasard un contenu rentre en dissonance avec mon monde propre, je vais avoir tendance à l'ignorer ou alors à le disqualifier. Et non seulement on peut observer une uniformisation des contenus et des schémas de pensée, mais on se retrouve très vite enfermé dans ses propres biais. Et de là, l'information est certes accessible, ouverte à tous, mais on a trop peu tendance à ouvrir les portes qui vont nous mener loin de nos croyances, de peur de les ébranler.
Et quelle est ta conclusion là-dessus ?
Je pense que ça peut se révéler problématique. Mais tout l'intérêt réside dans le fait de se poser des questions sur ses propres biais. En réalité, cette appellation porte un peu à confusion parce que c'est comme si nous étions enfermés dans une sorte de tunnel qui ne dépend pas de nous. Or, ces tendances psychiques apparaissent dans des moments où, justement, notre disponibilité cognitive est limitée. Mais pas notre cognition, pardon. Et c'est là toute la différence. Cela veut dire que nous pouvons tout à fait les contrer en tâchant d'ouvrir nos mondes propres aux informations qui vont diverger de nos croyances profondes. Et dans une société où l'attention et la disponibilité deviennent une ressource du capital, nous devrions encore plus redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans ces écueils. Et pour aller plus loin, je ne peux que vous conseiller de lire un livre d'Yves Citon sur l'économie de l'attention, Nouvel horizon du capitalisme, paru en 2014. Et avant de clôturer cette chronique, j'aimerais passer un message pour une personne qui m'est très chère, c'est-à-dire ma maman, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc très bon anniversaire maman, je sais que tu m'écoutes en ce moment.
Très bon anniversaire.
Ce qui motive réellement l'accélération est en fin de compte le désir d'augmenter l'horizon de disponibilité. L'horizon de ce qui est scientifiquement connaissable, technologiquement manipulable, économiquement productif, politiquement et juridiquement gérable et prévisible, etc., et de contrôler le monde. Il s'avère, aujourd'hui, que le monde rejette en quelque sorte cette tentative. La vie est toujours plus grande que ce que nous pouvons contrôler. Ainsi, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, la puissance qui arrête maintenant toutes les roues d'accélération est en fait la même qui les a fait tourner en premier lieu. L'envie. L'envie d'augmenter le contrôle, la domination et l'horizon de disponibilité. Si nous n'apprenons pas à équilibrer ce désir, nous créerons à l'avenir des formes encore plus monstrueuses d'indisponibilité, comme un retour de bâton. Nous ne vivons pas l'utopie de la décélération. En effet, la vitesse des flux numériques augmente massivement et cela approfondit la scission, l'écart entre notre vie réelle dans le monde physique et notre vie numérique. Tandis que l'une ralentit, l'autre s'accélère. Nous luttons ainsi contre l'indisponibilité temporaire du monde réel. Mais nous sommes, en quelque sorte, toujours en fuite, toujours vers un mode panique. Beaucoup de tâches de nos to-do list et de nos calendriers ont miraculeusement disparu et un grand nombre d'entre nous avons devant nous des périodes de temps libre relativement longues et inattendues. Or, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les combler immédiatement et revenir au mode roue de hamster. Nous organisons toutes sortes de réunions et d'activités inutiles. Nous surfons sans cesse sur les réseaux sociaux et les sites web et utilisons les services de streaming comme si nous avions profondément peur d'entrer en résonance avec nous-mêmes, notre environnement et les gens avec lesquels nous vivons réellement. Évidemment, nous ne pouvons pas facilement abandonner notre mode d'être au monde, acquis au fil des années dans la roue accélérée du hamster. Mais avant le virus, il semblait que nous ne pouvions rien faire contre la logique de l'accélération, le dynamisme des marchés et la puissance des grandes entreprises. Les acteurs politiques de la démocratie semblaient impuissants. Nous venons de réaliser que nous pouvions réellement agir politiquement. Nous avons le pouvoir d'arrêter les roues. Et c'est un premier pas vers un autre chemin, vers l'adoption d'un nouveau paradigme.
Nous avons basculé dans une industrie de l'expérience qui se concrétise dans une débauche de simulations, d'artifices hyper spectaculaires, de stimulations sensorielles destinées à faire éprouver aux individus des sensations plus ou moins extraordinaires, à leur faire vivre des moments émotionnels sous contrôle dans des environnements hyper réalistes, stéréotypés et climatisés. L'hyperconsommateur est celui qui attend de l'inattendu dans les environnements marchands programmés, qui recherche des univers fous ou féeriques, des expériences et des spectacles toujours plus hallucinants. Il veut se noyer dans un flux de sensations exceptionnelles en évoluant dans un espace-temps fun, théâtralisé, dépourvu de tout risque et de tout inconfort. Il s'agit d'accéder à une espèce d'état magique ou extatique entièrement déconnecté du réel, un état d'euphorie ludique dont le commencement et la fin, comme au cinéma, sont parfaitement minutés. La simulation n'est évidemment pas la seule voie qu'emprunte l'hédonisme expérientiel. Une autre logique est à l'œuvre, dont témoignent les séjours chez les amis, la flânerie, la farniente, le bricolage, la cuisine, la décoration, les randonnées, le goût de la nature, les pratiques musicales et sportives. Autant d'activités qui expriment une logique d'auto-organisation individuelle du temps libre. Le désir hyper-consommateur de se réapproprier ses propres plaisirs, d'éprouver des expériences selon un mode plus personnel, non guidé, non orchestré par le marché. D'un côté, l'hyper-consommateur désire toujours plus de spectacles démesurés, d'artefacts inouïs, de stimulations hyper-réelles. De l'autre, il veut un monde intime ou vrai qui lui ressemble.
La grande distribution, c'est vraiment un concept de distribution de masse qui a trouvé sa légitimité en faisant l'interface entre la production de masse et la consommation de masse. Mais la société a changé, elle s'est démoyennisée, les consommateurs sont devenus de plus en plus différents les uns des autres et donc se sont de moins en moins satisfaits d'un modèle de consommation qui traite tout le monde à peu près de la même manière. Et à ça s'est rajouté sur un plan plus imaginaire, plus symbolique, le fait que cette grande distribution qui a incarné la modernité, l'abondance, le rêve de l'abondance, pour tous, ben finalement, progressivement, cette image s'est retournée. Et aujourd'hui, ça fait progressivement, hein, elle incarne plutôt la déshumanisation du commerce, la surconsommation, les besoins artificiels, le dépérissement du petit commerce, l'effondrement des centres-villes. Enfin bref, on l'accuse de tous les maux. Et les imaginaires se sont plutôt déplacés vers ce qui est petit, authentique, ancré, etc. Donc double problème, si vous voulez, à la fois un problème, j'ai envie de dire, marketing. On n'est plus en phase avec une demande qui est beaucoup plus fragmentée que dans le passé, et puis un problème lié aux imaginaires évoqués par cette forme de distribution qui aujourd'hui quasiment en porte-à-faux avec ce à quoi aspire un grand nombre de consommateurs, en particulier avec la prise de conscience des enjeux environnementaux.
Répétez tel quel. Radio Campus Paris.
Tout de suite, la revue de presse. En quoi les nouvelles technologies numériques ont-elles une influence sur les pratiques et consommation des individus ? Comment les comportements des individus dévoilent-ils cette société que beaucoup de sociologues nomment aujourd'hui la société hypermoderne ? Que révèle cette évolution autour de l'économie du pouvoir d'achat ainsi que de la psychologie humaine ? Mais surtout, comment est-il possible de comprendre ce processus d'individuation où chaque individu a désormais la responsabilité de construire son identité par l'intermédiaire de ces nouvelles plateformes numériques. Comment fonctionne l'application Telegram qui s'en sert côté ukrainien et côté russe ? C'est un article paru dans Le Monde le 10 mars par Nicolas Six et c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Ce réseau, co-créé par Parel Dourov pour lutter contre la guerre d'information, aurait atteint les 500 millions d'utilisateurs actifs au début de 2021. Alors que cette application ne plafonnait en 2016 qu'à 100 millions d'actifs. Alors pourquoi Telegram est l'un des réseaux sociaux qui monte en flèche dans la consommation des utilisateurs et principalement en Ukraine ? Tout comme WhatsApp ou encore Signal, Telegram va donner la possibilité à tous de communiquer avec ses proches, soit en duo ou bien en groupe. Et on y retrouve beaucoup de similitudes entre chacune d'entre elles. Mais Telegram, et je le cite d'après cet article de Le Monde, possède une fonction supplémentaire. Les canaux d'information publics peuvent rassembler des millions de personnes. Et seuls leurs administrateurs ont le pouvoir d'y publier des informations. Donc Telegram permet de créer des groupes publics contenant jusqu'à 200 000 membres contributeurs, contre 256 sur WhatsApp, ce qui est quand même énorme. Les messages sont globalement protégés et non pas chiffrés, mais on ne peut cependant retirer cette possibilité technique pour les salariés de ce réseau de lire les messages. Donc dans le contexte actuel, Telegram est un moyen pour les Ukrainiens de lutter contre cette guerre de l'information, mais également pour les Russes, et ce réseau ne parvient pas à être retiré par la Russie malgré plusieurs tentatives depuis 2018. Le e-commerce. Toutes ces nouvelles interfaces électroniques et digitales qui nous permettent aujourd'hui de consommer à distance. Le 31 janvier, la Tribune publie un article intitulé « Avec le e-commerce, on arrive au bout de l'individuation de la consommation ». L'individualisation, c'est une conséquence de notre société hyper moderne que Jean Fourastier aborde dans son ouvrage « Le grand espoir du XXe siècle ». Selon lui, et je le cite, « Le machinisme semble aujourd'hui favoriser à long terme les tendances individualistes de l'homme évolué ». Dans cet article, Vincent Chabot, sociologue à l'Université de Paris, explique que la crise sanitaire a augmenté l'usage de ces interfaces et un fort développement de l'offre et de la demande. Le numérique et la digitalisation au service du commerce représentaient un moyen de développement économique, notamment pendant la crise sanitaire. Depuis le retour à la normale avec la rouverture des commerces, il constate que ces routines d'achat via ces interfaces persiste. L'idée que le numérique pourrait tuer le physique reste donc encore mitigée car les e-commerce échappent encore à plusieurs logiques de consommation. L'ubérisation en procès. C'est depuis le 8 mars que la plateforme Deliveroo et trois de ses ex-dirigeants viennent de prendre la parole devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir été accusés de travail dissimulé en employant comme indépendants des livreurs considérés comme non salariés. Des comportements qui, d'après un article de l'Usine Digitale intitulé Au procès Deliveroo, l'indépendance des livreurs en prend un coup, paru le 10 mars, sont fréquents et concernent des plateformes comme Take It Easy, Foodora, mais également Frishti. Google et Meta, objet d'une enquête européenne pour pratiques publicitaires anticoncurrentielles. Publiée le 11 mars par Alain Rioux dans la revue Digital, une enquête est lancée par la Commission européenne sur un possible comportement anticoncurrentiel de Google et de Meta dans le secteur de l'affichage publicitaire en ligne. Margaret Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, souhaite définir un accord entre Google et Meta sur la publicité en ligne afin d'éviter le faussement de la concurrence sur le marché qui est déjà submergé de technologies publicitaires.
Alors, on va commencer notre débat. Donc, je le rappelle un peu pour nos auditeurs, notre émission parle de l'influence des pratiques culturelles sur notre consommation, sur nos habitudes, nos comportements. Et je trouve que c'est vraiment un bon sujet dont il faut débattre aujourd'hui parce qu'avec tout l'essor des nouvelles technologies numériques, des nouvelles applications, en fait, c'est un enjeu crucial de nos sociétés actuelles. Et pour ça, j'aimerais revenir sur des théories qui ont été assez fondatrices il y a maintenant quelques années, les théories de Pierre Bourdieu notamment. En fait, je reviens sur la question du déterminisme social. Pour penser l'influence des pratiques culturelles sur nos comportements, je pense que c'est vraiment pas mal d'y revenir. Et en fait, le déterminisme social s'inscrit dans le prolongement des théories marxistes. Selon lui, le fondement de la lutte des classes n'est pas seulement économique, mais aussi culturel et symbolique. Dans cette même logique de violence qui n'est jamais dite dans la société. Et il va y avoir une imposition d'une culture au détriment de celle des autres. Pour revenir à l'influence des pratiques culturelles sur nos comportements, c'est en fait au fondement même de la culture et dans la façon dont elle est constituée, on se rend compte qu'il y a une influence qui est presque comment dire, inéluctable. Et c'est pour ça que c'est bien d'y réfléchir pour justement prendre le recul nécessaire et se rendre compte où commence en fait le déterminisme, où commence l'influence et comment pallier ou aller à l'encontre de ces pratiques-là.
Justement, ce que tu dis, Ilona, c'est très intéressant. Ça reprend les propos de Philippe Mahotti qu'on a pu justement écouter dans les archives qui ont défilé dans l'émission. Et par rapport à cet aspect-là que une culture domine et entrave à d'autres, il parlait en fait des codes sociaux, des codes religieux notamment. On était parfois enfermés, surtout dans la culture française. Enfin, voilà, on est quand même très imprégné par une culture judéo-chrétienne et il reprenait justement ces points en disant que parfois cette culture religieuse et judéo-chrétienne pouvait nous fermer, pouvait entraver à d'autres cultures qui résident au sein de notre société. Et ce déterminisme social, en effet, il est là, il est présent et je pense qu'il est vraiment présent. C'est un exemple. Voilà, l'exemple que Philippe Mahotti a utilisé sur les religions, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet quelque part de canaliser, d'introduire des codes de société aussi, d'organiser, et ça rassure aussi. Et donc je pense que avec cette évolution numérique, cette évolution technique, on a ce phénomène de démocratisation culturelle. Qui change et modifie profondément les choses.
Et c'est vrai, c'est vrai qu'avec les technologies numériques, on n'a plus du tout, enfin plus forcément le même rapport à la culture qu'on avait auparavant. Et par rapport à ça, tu as une élève du CELSA qui s'appelle Nina Covin, qui a écrit un article dans la revue du CELSA qui s'appelle Fast and Curious. Et en fait, elle explique qu'on n'est plus forcément dans une époque où les symboles de pouvoir et de domination sont réservés à l'élite et aux classes supérieures de manière générale. En fait, aujourd'hui, avec le numérique, on a des biens culturels qui peuvent arriver directement chez soi. Ils sont plus sacralisés comme ils l'étaient auparavant, et ça a été d'autant plus intensifié avec le confinement, qui a vu apparaître un certain nombre d'expositions gratuites qu'on pouvait visionner depuis chez soi.
Et des visioconférences notamment.
C'est ça, et aussi des plateformes, des expositions, des expositions virtuelles. Une expo au musée d'Orsay qui a donné accès à ses plus grandes œuvres en ligne. Tu as aussi le musée Guggenheim à New York, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui a proposé une visite virtuelle sur Google Arts and Culture. Et en fait, ces initiatives-là, elles ont pu stimuler la curiosité d'un public beaucoup plus large qui n'avait pas forcément accès à ces biens culturels-là et qui n'avait pas forcément l'habitude de se rendre dans les musées.
Quelque part, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on est vraiment rentré aussi dans ce qu'on appelle l'industrie de l'expérience, dans une industrie de l'expérience, où aujourd'hui, par le numérique, tout devient possible, tout devient accessible à tous, et ça revient vraiment sur cet effet de démocratisation et tous les comportements sont possibles. Vu que on est axé principalement là-dessus sur cette émission, donc on est dans cette industrie d'expérience, voilà, où tout est accessible par le numérique, et c'était intéressant de le voir du point de vue aussi de Gilles Lipovetsky, parce que lui, il explique, j'ai pu faire une lecture précédemment, et il explique que justement par cette industrie de l'expérience, on est comme dans une débauche de simulation. On arrive aussi dans un espèce de fantasme, parce que tout est possible, tout est absolument possible. On peut faire éprouver aux individus absolument tout. Et ça rentre dans cette logique aussi d'immersion avec l'intelligence artificielle, mais je pense principalement à la réalité virtuelle. Voilà.
Et c'est vrai que j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est qu'au-delà de l'immersion dans laquelle on rentre avec les technologies numériques, c'est qu'on a aussi une certaine logique d'industrialisation. Et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, avec les nouvelles plateformes de streaming comme Netflix. Là où son slogan, c'était Netflix and chill, en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément ça qui se passe, parce que c'est ce qu'on appelle le binge-watching, où tu vas regarder un programme et t'es dans une logique aussi, t'as une industrialisation de la production, mais t'as aussi une industrialisation de ta capacité d'attention quelque part.
Des contenus, par les contenus que tu vas regarder.
Exactement, justement. C'est ça. Et on voit que Netflix s'évertue à produire de plus en plus de contenus. Et aujourd'hui, on voit que la chronologie des médias est totalement bouleversée parce qu'on n'est plus du tout dans la même logique de consommation et de diffusion de films ou de séries. Et on voit que ça influence et nos comportements, mais aussi les structures de la société tout entière, parce que bon, la chronologie des médias, ça fait quand même
un petit moment qu'elle est installée.
Et là, il y a tout qui est en train de changer. Et avec cette logique d'industrialisation, ça vient aussi avec le fait qu'on a de plus en plus une accélération du temps. On va produire de plus en plus rapidement grâce aux techniques qui arrivent. Et aujourd'hui, on n'a plus forcément le même rapport au réel et on n'a plus, ok, ça va avoir une influence sur nos comportements de consommation, etc. Mais ça va aussi avoir une influence sur notre rapport à l'espace-temps parce que tout va de plus en plus vite aujourd'hui.
Et ce que tu dis, parce qu'à un moment, tu disais que justement, on avait plus cette perception aussi du réel, de la réalité. Moi, j'aimerais revenir sur ce point de réalité virtuelle où justement, on est... L'individu, finalement, l'homme, est transposé dans un autre monde, dans ce monde virtuel, dans cette espèce de collectif, collectif du web, collectif du numérique, des plateformes numériques. Et il est complètement transposé ailleurs, dans un autre univers où il va pouvoir finalement sortir de son quotidien de tous les jours et être en immersion totale. Et se réinventer, en fait, ce qu'on appelle l'identité numérique.
Ouais.
Une nouvelle identité numérique. Et ce point-là, en fait, il est hyper intéressant parce que, justement, on a pu observer que, à travers toutes les plateformes possibles, à travers Facebook aussi, à travers Instagram, en fait, l'homme peut s'inventer, se créer une nouvelle identité, à chaque fois une nouvelle identité numérique. Quand on va, par exemple, se créer une adresse mail via Google, via Gmail, c'est possible d'en produire des tas avec des informations différentes, modifiées. Ça me fait penser justement à cette série qui est sortie sur Netflix, qui est une reproduction qui s'appelle Inventing Anna. Et est une reproduction de cette femme d'affaires qui est assez audacieuse qui va finalement arnaquer tout le monde, en fait. Arnaquer tout le monde et se créer plusieurs identités. Et c'est là qu'on voit que le numérique aussi a un rôle, joue un rôle quand même assez, assez angoissant aussi, parce que finalement, en fait... on peut absolument tout faire. C'est ça que ça dévoile aussi. Mmh. Et ça dépasse l'humain, en fait. Et c'est là qu'on voit que les théories d'Anna Arendt, qui disait que la technique allait dépasser l'homme, au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc enfin, faut quand même remonter,
c'était tellement
précurseur. Quand on voit qu'elle dit des choses comme ça, bon, bah là, on y est concrètement.
C'est clair, mais c'est vrai que justement tu dis que quelque part la technique dépasse l'homme, et aujourd'hui ce dont on se rend pas vraiment compte non plus, c'est que effectivement on va pouvoir se créer des adresses email, on fait du traitement de texte, ou on va aller assez loin, enfin là je donne des choses assez basiques, mais en fait on se rend pas forcément compte de tous les algorithmes et de tout ce qui se cache en fait derrière nos écrans, parce que nous on voit c'est ça, une souris qui se déplace, etc., qui est faite exprès justement pour que on ait ce rapport avec la réalité. C'est cette espèce de logique de quand tu vas faire un traitement de texte, par exemple, tu vas avoir des petits pinceaux pour te dire que ça c'est pour peindre, tu vas avoir un crayon qui va dire que ça c'est pour écrire, et en fait derrière c'est des programmes qui font ça. Et aujourd'hui, je pense que avec justement ce développement de la technique, ce qu'il faudrait développer aussi, c'est la littératie numérique. C'est l'idée, en fait, qu'on sache véritablement s'approprier nos pratiques, ce qu'on ne sait pas forcément faire aujourd'hui, ou en tout cas, ce qui n'est vraiment pas démocratisé. Il y a un moyen simple pour ça. c'est que tout ça, ça part d'une certaine chose, c'est qu'à partir du moment où on est né avec le digital, on s'habitue, c'est naturel chez l'homme, on est, le cerveau est plastique, mais j'imagine que juste ça marche avec tout, tu vois, quand on est dans un certain environnement, on s'y habitue très facilement. Et du coup, on a appris naturellement à utiliser les nouvelles technologies numériques, mais c'est ces algorithmes-là qui se cachent derrière, qu'on n'arrive pas encore, qu'on commence seulement à appréhender. Par exemple, c'est de plus en plus connu que Netflix va avoir des algorithmes qui vont prédéterminer les programmes qu'il va te proposer en fonction de là où tu regardes, de l'heure à laquelle tu regardes ton programme. Et il va, par exemple, te proposer des affiches de films personnalisé en fonction de tes goûts. Donc moi, par exemple, j'ai plus à voir, je sais pas, si je regarde beaucoup de comédies romantiques, on va me proposer des couples sur la couverture du programme. Et ça, en fait, on le réalise pas forcément. C'est très pernicieux, en fait.
C'est une espèce de surveillance cachée qui est réalisée, en fait, par justement toute cette force, je sais pas comment le dire autrement, mais toute cette force numérique, en fait, enfin tous ces cerveaux qui sont cachés derrière, en fait, et qui vont créer des données à n'en plus finir pour justement essayer d'analyser le comportement du consommateur. Et ce que tu dis, en fait, et qui est hyper intéressant sur les algorithmes, parce que tu parlais des algorithmes, voilà, je pense que c'est quand même utile de rappeler les différents algorithmes qui ont été théorisés par Dominique Cardon. Et donc, lui, il va parler dans son ouvrage « À quoi rêvent les algorithmes ?» nos vies à l'heure des big data. Il va parler tout d'abord des algorithmes de popularité. Donc ça, c'est les algorithmes qu'on appelle à côté du web. Ensuite, les algorithmes de hiérarchie. Voilà, ça, c'est les algorithmes au-dessus du web. puis ensuite, les algorithmes de mesure de réputation. Voilà, ça c'est les algorithmes qui sont présents dans le web. Et enfin, les algorithmes prédictifs et voilà, de prédiction, c'est ceux-là dont tu parlais, qui sont dans Netflix et donc qu'on appelle les algorithmes au-dessous du web. Et c'est très subtil, je trouve.
C'est vrai. Mais tu vois, ce que je trouve assez alarmant, c'est, je sais plus où j'ai vu ça, mais en fait, ceux qui ont conçu les algorithmes de Facebook se sont rendus compte que à certains moments, il y a un contenu qui allait apparaître pour telle personne. En fait, l'algorithme a commencé à prendre son indépendance et eux-mêmes ne savaient pas d'où venaient les résultats. Ils sont incapables de savoir d'où ça vient. Et bon, on n'est pas forcément dans une espèce on n'est pas forcément dans une dystopie où d'un coup les machines vont prendre le contrôle, etc. Mais tu te dis que ça va très loin parce que c'est quand même l'homme qui conçoit ces algorithmes-là. Et en fait, il se débrouille tout seul, tu vois. Et mais la question, c'est jusqu'où ça va aller.
Jusqu'où ça va aller, parce que en plus, ce que tu dis quand tu dis que l'homme n'a plus vraiment un contrôle justement sur ces techniques, il y a énormément de robots aujourd'hui qui ont été créés, des robots dans des centres justement hospitaliers, ce qui est très pratique pour faire le ménage, pour avoir plus de mesures de sécurité aussi et de propreté, d'hygiène. Et ce qui aide aussi davantage les infirmiers qui ont d'autres choses à faire aussi. Voilà, ça part toujours en fait dans une logique d'aider parce que voilà, le principe même c'est celui-ci. Mais jusqu'où cette aide peut aller et jusqu'où nous on peut être, enfin l'humain peut être carrément dans l'incontrôle de tout ça.
Et c'est vrai qu'au-delà des écueils dans lesquels on pourrait tomber, de toute cette petite angoisse qui peut exister quand on se dit qu'effectivement les technologies numériques nous dépassent un peu parfois, hein, ça peut véritablement aider. Et j'aimerais bien revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, sur le fait que, bon, ok, le numérique va avoir un impact sur les biens culturels, bon, les textes, les images, les sons, mais aujourd'hui ça va encore plus loin, parce que ça modifie pas seulement la nature des biens, et nos comportements, ça modifie aussi notre identité. C'est ce que tu disais.
L'identité numérique, oui, en effet.
C'est ça, donc d'abord dans la création de cette identité numérique, mais aussi dans notre façon d'appréhender et de traiter l'information qui vont forger, entre guillemets, nos mondes intérieurs. Et c'est ce que disait Yves Citon qui est professeur à l'Université Paris 8, en fait, il parle de capitalisme attentionnel. C'est l'idée qu'aujourd'hui, le capital n'existe plus forcément dans l'économie, dans les biens en tant que tels, mais dans l'attention et dans ta capacité de faire attention à quelque chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à une certaine époque où, effectivement, tu as toutes les informations que tu veux à disposition. Et en fait, tu pourrais tout... Enfin, théoriquement, tu peux tout choisir. Et aujourd'hui, le véritable enjeu des médias, des industries et de toutes les entités qui essayent de se faire une place dans l'espace public numérique, c'est ça, c'est de réussir à capter l'attention. Et en fait, le capitalisme devient dématérialisé et toute l'abondance des biens culturels, l'information gratuite, le commentaire généralisé va chercher désespérément l'attention des utilisateurs. Et on rentre dans une espèce de course à l'attention et c'est ça qui est devenu la véritable richesse de nos sociétés.
Et pour reprendre justement cette idée de course à l'attention, est-ce que finalement... Dans tous les cas, en fait, l'individu est toujours ramené à un contenu qui lui correspond le plus, justement, par rapport à ce que tu disais dans la course à l'attention. Et finalement, Philippe Mahoti expliquait que par rapport à ça, il y avait des bienfaits, mais aussi des choses un peu plus hostiles, finalement, enfin, qui peuvent nous paraître hostiles parce qu'on ne veut pas forcément en parler. Lui, il parle de cette coloration ethnique qui apparaît dans le numérique. On parle du numérique, mais on parle aussi des influences, enfin, dans la consommation. Je veux faire une transition un peu là-dessus. Lui, il parle de coloration ethnique qui, maintenant, est retrouvée dans les plateformes numériques. Parce que tu parlais de Netflix tout à l'heure avec toutes les sélections préétablies en fonction des algorithmes prédictifs et tout. Lui, voilà, quand il dit que ça engendre des aspects positifs et négatifs, en fait, la consommation, elle devient une consommation d'entre-soi. Et cette consommation d'entre-soi, en fait, voilà, notre plateforme numérique, en fait, elle nous propose une multitude de choix. Si bien que ensuite, voilà, en fonction des algorithmes, on va être amené à trancher et à créer sa propre sphère à nous. Donc voilà, cette idée d'entre-soi, en fait, on va avoir plusieurs possibilités, justement peut-être trop de possibilités. Et lui, ce qu'il expliquait à travers ça, c'était que quelque part, il y avait quand même toujours cette manière de catégoriser, toujours, mais aussi, par conséquent, de détruire un espèce de lien social. Donc en même temps, c'est paradoxal parce que ça, on va partager énormément de choses, mais comme il y a trop d'informations, de trop de contenu, et qu'ensuite on est obligé forcément de faire des tris, de faire des choix et de trouver quelque chose qui nous correspond le plus, surtout avec cette course de l'attention, finalement, est-ce qu'on ne détruit pas aussi ce lien? Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement enfermé dans quelque chose? Et c'est tous ces points justement qu'il aborde. Ça, c'est, je pense, c'est le côté, c'est la couche un peu, voilà, qui est un peu hostile à l'homme. Même si ça nous apporte énormément de choses, il y a quand même ce point-là qui est présent derrière.
Bah, c'est vrai que forcément, devant l'offre d'informations qu'on a à disposition, bah, j'en parlais dans ma chronique tout à l'heure, mais on a cette espèce de biais de confirmation déjà, où on ne va pas forcément sortir de nos sphères personnelles. Et c'est pour ça qu'on parle d'entre-soi. Et c'est pour ça qu'on va évoluer dans les mêmes sphères que des individus qui vont avoir en général les mêmes avis que nous, etc. Et en fait, aujourd'hui, déjà, bon, on choisit quelque part d'aller vers telle information plutôt qu'une autre. Mais il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est que Google... C'est quand même un moteur de recherche, c'est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde entier. Et lui aussi, il est régi par des algorithmes. Lui aussi, il va diriger vers tel ou tel contenu plutôt qu'un autre. Et en fait, aujourd'hui, on rentre dans une... comment dire, on parle de la loi de l'accumulation. En fait, c'est ce dont parle Ipsiton, c'est qu'on arrive dans une loi de l'accumulation qui règne à travers les machines attentionnelles. Ici, la machine attentionnelle, donc Google et les moteurs de recherche de manière générale. Mais Google, c'est quand même celui qui détient un pouvoir hégémonique sur l'ensemble des autres moteurs de recherche. Et du coup, toute cette offre pléthorique d'informations qui semble gratuite et disponible pour tous n'est en fait qu'une illusion. On est dans une espèce de nouvelle lutte des classes qui se joue, et c'est une lutte pour la visibilité individuelle. Donc déjà, on est dans cet entre-soi, et en plus, t'as cette lutte, donc cette création d'identité numérique, tu vas...
qui individualise davantage, en fait.
Et juste, par rapport à ça, t'as une petite citation d'Yves Citon qui dit que les nouveaux prolétaires sont moins des exclus que des relégués, tu vois.
Et c'est ça justement qui fait qu'on parle aujourd'hui de ce phénomène d'individuation. Sans le vouloir, finalement, on rentre complètement dedans. Et je pense que c'est intéressant quand même d'avoir un regard là-dessus et de ne pas en prendre... d'en prendre conscience, justement.
Mais c'est vrai que cette individuation-là, elle est de plus en plus prégnante avec l'évolution de la technique et dans cette logique d'accélération. On a aussi une accélération du changement social.
Il est toujours présent, mais on lui a donné un autre nom.
Mais c'est ça. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une lecture d'Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand. Et en fait, il parle d'une nouvelle dynamique du temps dans son ouvrage qui s'appelle « Accélération, une critique sociale du temps ». Le truc, c'est qu'on va désynchroniser les évolutions socio-économiques et cette logique capitaliste, parfois, de l'évolution des technologies numériques. Et en fait, ça va tuer dans l'œuf le progrès social parce qu'on ne se rend pas compte que le capitalisme... Enfin, si, on le sait, tu vois, mais mine de rien, c'est un peu sous-jacent, encore une fois. On ne réalise pas à quel point...
Il est encore présent.
Il est encore présent dans les structures... Dans les grosses industries qui vont effectivement faire partie du web, mais aussi entre nous. C'est qu'on commence de plus en plus à installer cette logique d'entre-soi, de capitalisme attentionnel. Et quelque part, j'ai l'impression que justement, on arrive, encore une fois, on la retrouve, l'uniformisation de la pensée, des idées, etc.
Et le fait aussi que le problème, finalement, ne disparaît pas, mais est toujours délocalisé.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est toujours ça. Hein.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait il y a un changement radical dans notre société parce que avec quelque part le numérique va induire de nombreux changements, mais donc dans nos comportements, dans nos idées, dans notre rapport avec les autres et de manière générale dans notre rapport au monde.
Et ce que tu disais justement avec les comportements des individus, je pense que voilà, c'est quand même important de savoir que avec le numérique, on laisse forcément des traces de tous nos comportements de consommation. Voilà. Et par l'intermédiaire, par exemple, de Big Data, les données individuelles en fait, de chaque utilisateur, elles nous permettent d'analyser le désir des uns et des autres. C'est-à-dire, pour reprendre le terme exact de ce désir, de ce plaisir, et sur la course de l'attention, on parle d'hédonisme. Principalement, voilà, où c'est la recherche d'un plaisir dans la consommation. Et toutes ces plateformes-là vont être là à scruter qu'est-ce que tel ou tel individu recherche le plus, qu'est-ce qui lui correspond le plus, ça stocke ces informations-là. Et voilà, il va essayer de l'introduire dans un espèce de fantasme avec toutes ces consommations, tous ces contenus différents. Et donc voilà, il y a Big Data, il y a l'intelligence artificielle aussi. Et puis, il y a le neuromarketing. Je pense que c'est important aussi d'en parler parce qu'avec le neuromarketing, en fait, on va chercher à comprendre le processus qui se déroule dans le cerveau et qui conduit justement à l'acte de consommation, l'acte d'achat. Ce qui est assez impressionnant. Et alors, en France, au départ, c'était compliqué de mettre en place. Enfin, c'était pas autorisé.
Il y a des régulations.
Il y a des régulations. Mais bien évidemment, si c'est pas possible en France, c'est forcément possible à l'étranger. Et des personnalités comme Elon Musk, des grands milliardaires qui ont les capacités de mettre tout ça en place, en perspective, l'ont réalisé. Enfin,
C'est déjà là.
C'est déjà là.
Et on s'en rend même pas compte. Et c'est ça qui est le le plus comment dire, j'allais dire incroyable, je sais pas si c'est le terme, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission quelque part, c'est pour justement en parler, réussir à dénoncer. Je sais pas si on peut parler de dénonciation non plus,
je pense pas éclairer,
tu vois, ou mettre le doigt dessus.
Mettre le doigt dessus et encore une fois un recul finalement sur tout ce qui nous entoure et sur tout cet univers virtuel dans lequel on véhicule à 400%.
Et avec les nouvelles techniques qui apparaissent chaque jour dans un contexte d'accélération du temps et leur changement fulgurant, enfin qui nous apparaît même pas directement, tout ça s'immisce peu à peu dans notre vie quotidienne sans qu'on le réalise. Loin de les condamner ou de les encenser, en fait, faut simplement les questionner afin de mieux les saisir et de pouvoir en cerner tous les enjeux qui vont profondément changer la société de demain. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très vite pour vous en apprendre un peu plus sur les sciences de l'information et de la communication. Vous avez entendu des archives notamment sur l'hyperconsommation à l'occasion d'une conférence tenue par Philippe Moati, professeur d'économie à Paris Diderot. Une émission de France Culture nous a également permis de revenir sur l'hégémonie des plateformes numériques et sur leur impact sur notre consommation. Enfin, vous avez également entendu un entretien avec Dominique Cardon à propos de la culture du numérique dans le cadre de la Grande Table des Idées qui s'est tenue en 2019. À la lecture, vous avez pu entendre un extrait du Bonheur paradoxal de Gilles Lipovetsky, un essai sur la société de consommation paru en 2008. Vous avez également entendu l'extrait d'un entretien avec Hartmut Rosa sur les pièges de l'accélération du progrès datant du 23 avril 2020. C'était Ilona Priem à la présentation. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et vous dis à très bientôt dans l'émission Répétée telle quelle pour Radio Campus Paris.